Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du rugby sud-africain. En raison de son palmarès, l'Afrique du Sud est considérée comme l'une des meilleures sélections nationales au monde en rugby à 15. Elle est en effet triple championne du monde, la Nouvelle-Zélande étant la seule autre équipe à avoir réalisé cet exploit. En 1995, le 4 juin, après des décennies d'apartheid et de boycott, l'Ellis Park de Johannesburg, surnommé la Fosse aux Lions, accueillit la troisième finale de la Coupe du monde de rugby, Afrique du Sud All Black de Nouvelle-Zélande. Le président Nelson Mandela portait ce jour-là un maillot Springbok, comme le symbole d'une nouvelle expérience. Les Sud-Africains, préparés façon commando, imposèrent une stratégie d'étouffement du géant All Black, l'ailier John Alomou, qui ne put toucher un ballon de la partie. Score final, 15-12 pour l'Afrique du Sud. Nelson Mandela remit fièrement le trophée au capitaine sud-africain vainqueur, l'Afrikaner François Pinard. C'était un moment historique pour l'Afrique du Sud, comme pour le rugby mondial. Le film de Clint Eastwood, Invictus. Plus tard, Nelson Mandela, dit Madiba en référence au nom de son clan tribal d'origine, dira « Le rugby, comme le football, le cricket et les autres sports collectifs, a le pouvoir de guérir les blessures. Il a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'inspirer, le pouvoir d'unir les gens comme personne. Le sport pour réveiller l'espoir quand il n'y a pourtant que désespoir tout autour. » Seule ombre au tableau, des soupçons de dopage apparaissent et plusieurs joueurs sud-africains, Ruben Kruger, Jos van der Struijzen, Tinus Lynne, André Werther, Chester Williams, Jens Smoll, sont atteints de maladies neurologiques rares et en meurent ensuite très jeunes. En 2007, lors de l'édition française de la Coupe du Monde en finale, les Sud-Africains s'imposent contre les Anglais par 15-6 au cours d'un match sans aucun essai marqué. Deuxième titre. Enfin, en 2019, au Japon, en finale, il s'impose de nouveau contre les Anglais sur le score de 32-12, devenant ainsi champion du monde pour la troisième fois. Comme dans toutes les autres colonies britanniques, c'est l'élite anglaise qui a importé ce sport en Afrique du Sud. Les premiers joueurs de rugby sont des soldats de la couronne britannique, présents pour imposer la Pax Britannica aux Zoulous et surtout aux Boers, les Afrikaners. L'homme qui introduisit la discipline se nomme Canon Ovilgi. En 1872, ce révérend, soucieux de voir la ville du Cap se vider de ses forces en raison de l'affrontement entre les Afrikaners et les Anglais, incite les collégiens de l'université de Stellenbosch, où il enseigne, à pratiquer le gog. Ce jeu, dont les règles, à base de mêlée, rappellent de près le rugby, doit endurcir les jeunes ressortissants de la colonie anglaise. Les Boers étaient les descendants des premiers colons d'origine néerlandaise, allemande et française, arrivés en Afrique du Sud au XVIIe et XVIIIe siècle. Le terme de boer, fermier en néerlandais, qui désignait principalement les habitants des républiques qui accueillent ces immigrants, laissera au XXe siècle la place à celui d'afrikaner, pour désigner l'ensemble de cette communauté blanche d'Afrique du Sud, où le rugby y est devenu le sport favori. À la fin du deuxième conflit en 1902, les deux républiques boers, l'État libre d'Orange et la République sud-africaine du Transvaal, perdirent leur indépendance et furent intégrés à l'Empire britannique jusqu'à la création en 1910 de l'Union d'Afrique du Sud. Les Sud-Africains font une tournée en Grande-Bretagne et en Irlande en 1906. Ils y gagnent un nom, les Springboks, du nom des gazelles d'Afrique méridionale, et il marque l'histoire. La réussite de cette tournée a permis de rapprocher les Boers et les Britanniques, 4 ans seulement après la fin de leur conflit. L'équipe d'Afrique du Sud de rugby à 15 dispute la tête du rugby mondial aux All Blacks. Aucune nation ne pourra les battre dans une série de test matchs pendant 50 ans. La rivalité entre les Springboks et les All Blacks commence en 1921 à l'occasion d'une tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande. Après cette tournée, les Springboks refusent de jouer contre les Maoris pendant 35 ans, la fédération néo-zélandaise ayant ainsi longtemps accepté les exigences de la fédération sud-africaine. La tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande de 1956 voit la suprématie mondiale du rugby changer de tête. Les Springboks perdent la place de numéro 1 au bénéfice du pays du long nuage blanc, la Nouvelle-Zélande. La machine verte et or sud-africaine n'avait jamais été battue dans une série depuis 1896. Les Springboks affrontent les Français en 1958 dans une série historique pour les Bleus. Le 16 août 1958, l'équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks à l'Ellis Park de Johannesburg sous la conduite de Lucien Mias, le docteur Pack. La tournée en Afrique du Sud de l'équipe de France, pourtant handicapée par plusieurs absences, est un succès complet car lors du premier match, elle a fait match nul 3-3. En 1960, les critiques internationales de l'apartheid prennent de l'ampleur. Et l'attitude du Royaume-Uni change à la suite du massacre de Charpeville, survenu le 21 mars 1960, qui heurte l'opinion mondiale avec ses 77 manifestants tués. Une campagne de protestation a lieu en Nouvelle-Zélande avec le slogan « No Maoris, no tour ». Pas de Maori, pas de tournée. En 1976, 22 pays africains boycottent les Jeux Olympiques de Montréal en raison des relations que la Nouvelle-Zélande entretient avec l'Afrique du Sud et son régime d'apartheid. Un des grands mythes de la culture africanaire a longtemps consisté à affirmer que le rugby n'intéresse pas les Noirs. Faux, avant l'avènement du football dans les townships, au début des années 1960, un joueur comme Eric Majola était un héros de la communauté noire qui n'a jamais cessé de pratiquer le rugby au sein de sa propre fédération, malgré l'indifférence des Blancs et l'absence de reconnaissance internationale. La France, qui ne s'illustre pas par ses prises de position pendant ces années de contestation, sélectionne symboliquement quelques joueurs de couleur comme Bourgarel, ailier du Stade Toulousain en 1971, et Blanco, arrière de Biarritz en 1980, pour les matchs contre l'Afrique du Sud. En 1989, 8 joueurs français, dont 7 internationaux, invités au centenaire de la Fédération sud-africaine de rugby, se sont envolés de Roissy à destination de Johannesburg. Franck Benel, Denis Charvet, Pierre Berbizier, Philippe Sella, Laurent Rodriguez, Marc Cessillon, Jean-Pierre Garruet et le troisième ligne de couleur de Saint-Jean-de-Luz, Jean-Philippe Elorga, ont rejoint 6 internationaux australiens et 4 britanniques déjà sur place pour 5 matchs prévus entre le 19 août et le 2 septembre, dont 2 tests contre l'équipe sud-africaine des Springboks. L'équipe sud-africaine n'avait plus rencontré de sélection étrangère depuis 1986, année de la tournée des Cavaliers néo-zélandais. Albert Ferras, le tout-puissant président de la Fédération française de rugby, a indiqué qu'il n'avait pas voulu empêcher les joueurs de partir car ces gens sont majeurs et qu'il ne voulait pas passer pour un dictateur. Albert Ferras est un grand ami de Danny Craven, le tout-puissant président de la Fédération de rugby sud-africaine, ancien joueur international de 1931 à 1939, capitaine puis entraîneur des Bocs de la grande époque de 1949 à 1956. Une isolation totale risquait de voir un exode des joueurs sud-africains vers le rugby à 13. Et les dirigeants du rugby mondial tentaient ainsi de ne pas tuer le rugby à 15 en Afrique du Sud. En 1982, cédant aux pressions des organismes de défense des droits de l'homme, mais aussi de l'African National Congress, l'ANC, l'ONU décide d'exclure l'Afrique du Sud de toutes les compétitions internationales. À sa libération en 1990, Mandela signe un accord historique avec le président de Klerk avant d'être élu quelques années plus tard. L'hymne « Die Sterne van Sud-Afrika » est remplacé par un hymne multiracial. Une autre revanche est la présence de l'ailier noir Chester Williams dans l'équipe sud-africaine en finale de la Coupe du Monde 1995 en Afrique du Sud. Même si on a très vite appris que Williams n'était qu'une caution, un quota noir au sein de l'équipe afin de rassurer la communauté internationale et faciliter les campagnes publicitaires, quelques temps plus tard, il a lui-même raconté comment ses propres coéquipiers le traitaient de sale noire pendant que les commentateurs enthousiastes vantaient l'esprit de cette équipe Springbok. censé incarner la nouvelle Afrique du Sud. Les Springboks sont les premiers joueurs qui adoptent le statut de joueur professionnel proposé par le World Rugby Championship. Ils infligent même une sévère défaite à la France, 52-10, le 22 novembre 1997. Si tout un peuple a soutenu les Springboks lors de la Coupe du Monde en 1995, une équipe, un pays, le slogan de Morne Duplessis, l'ancien grand capitaine et le manager de l'équipe de 1995, l'ouverture au peuple noir se fait attendre et des crises éclatent régulièrement. En demi-finale de la Coupe du Monde 1999, qui se déroule au Pays de Galles, l'Afrique du Sud s'incline de peu face à l'Australie, le futur vainqueur. À la Coupe du Monde 2003, qui se déroule en Australie, l'Afrique du Sud, seconde de poule, quart battue par l'Angleterre, est éliminée en quart de finale par les All Blacks. La France organise la Coupe du Monde en 2007. Et en finale, les Sud-Africains confirment leur belle prestation en s'imposant contre les Anglais par 15-6 au cours d'un match sans aucun essai marqué. La victoire des Springboks est fêtée dans toute l'Afrique du Sud, bien que des voix s'élèvent notamment au gouvernement contre le fait que la population noire soit sous-représentée dans l'équipe nationale. Les Springboks ont été invaincus pendant la compétition. Ils possèdent le meilleur réalisateur de l'épreuve, l'arrière Percy Montgomery, et le meilleur marqueur d'essai, l'ailier Brian Abana. En 2011, en Nouvelle-Zélande, les Springboks perdent en quart de finale sur le score de 11-9 contre l'Australie, en dominant le match, perdant ainsi le titre mondial. Ce sont leurs rivaux néo-zélandais qui remportent à domicile le titre de champion du monde, le deuxième de leur histoire, en battant la France sur le score de 8-7 en finale. En 2015, en Angleterre, les Springboks commencent leur Coupe du Monde par une défaite historique contre le Japon, 32-34. Malgré cette défaite, en quart de finale, ils disposent des Gallois et se font éliminer par les All Blacks en demi-finale. Ils terminent la compétition à la troisième place en remportant le match de classement face à l'Argentine. En 2019, au Japon, l'Afrique du Sud entame la Coupe du Monde 2019 en affrontant les All Blacks, tenants du titre, s'inclinant sur le score de 23-13. Les Sud-Africains finissent donc deuxième de leur poule derrière les Néo-Zélandais. Lors de la phase finale, ils battent successivement le Japon en quart de finale, le Pays de Galles en demi-finale et enfin l'Angleterre en finale sur le score de 32-12, devenant ainsi champion du monde pour la troisième fois. L'Afrique du Sud, qui joue en vert et or, dispute chaque année le Rugby Championship contre les équipes de Nouvelle-Zélande, d'Australie ainsi que d'Argentine. Plusieurs joueurs Springbok renommés se sont expatriés et sont venus jouer en Angleterre, en France, en Irlande, au Pays de Galles ou en Italie. C'est le cas par exemple de Nas Botha, François Pinard, Percy Montgomery, Stéphane Terblanche, Corbus Visagy, Grant Esterhuizen, Butchems, Victor Matfield, John Smith, Ashwin Villens. La Coupe du Monde 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Pour guider les Springboks vers une quatrième victoire, la nation arc-en-ciel comptera évidemment sur son capitaine. Siya Kolisi, 31 ans, 75 sélections, véritable icône dans son pays. Le troisième ligne des Sharks est d'abord devenu le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, avant de soulever la Coupe du Monde 2019. Le flanqueur sud-africain est devenu un leader vocal des Springboks et s'est mué en chef de meute d'un pacte aussi impitoyable que destructeur. Les Springboks débuteront face à l'Écosse, le 10 septembre 2023, puis affronteront la Roumanie le 17 septembre, avant le choc contre l'Irlande le 23 septembre. L'Afrique du Sud terminera sa phase de poule face au Tonga le 1er octobre 2023.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.